Discours de politique générale, mission transpartisane, c'est Milakoulo Tukumuli, le président du gouvernement, qui était vendredi midi l'invité de Transparence, extrait dès le début de ce journal. Richard Pouahoua prend la tête du Sénat coutumier, succède à Ludovic Boula au terme du 26e congrès du Pays Kanak. Les sénateurs coutumiers qui ont adopté une motion générale qui compte 15 points. À l'heure de la rentrée politique en métropole, à la foire de Châlons en Champagne, Jordan Bardella réaffirmait sa loyauté à Marine Le Pen. À Blois, Olivier Faure fait un pas de plus vers la primaire de la gauche. Un accord pétrolier historique entre Washington et Caracas. Les États-Unis prennent le contrôle de 65 milliards de barils vénézuéliens. Un contrat signé 8 mois après l'arrestation de Nicolas Maduro par les États-Unis. Le sport et coup de théâtre sur le Tour d'Espagne. Tadej Pogacar contraint à l'abandon après une violente chute. Bilan, commotion cérébrale, clavicule et cervicale fracturées et une fin de saison compromise. Et puis en Calédonie, les Raiders, une nouvelle fois à l'assaut de la piste BMX de Tina. Une quarantaine de jeunes cyclistes participaient ce matin à la 3e manche du championnat. Bonjour, soyez les bienvenus dans ce journal. À quelques heures de son départ pour Paris, à la tête de la mission transpartisane, c'est donc le président du gouvernement, Milakoulo Tukumuli, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Et il a été interrogé, Michael Juneski, sur la déclaration de politique générale qu'il a prononcée lundi dernier.
Milakoulo Tukumuli revendique une déclaration de politique générale atypique dans une période particulière. Il préfère d'ailleurs parler d'une déclaration d'urgence et il justifie d'avoir fixé une feuille de route pour 6 mois en annonçant une nouvelle déclaration de politique générale dès le mois de mars.
J'ai souhaité faire une déclaration de politique, on va dire plutôt d'urgence, basée sur 6 mois, ce qui nous emmènerait jusqu'au vote du budget pour 2027. Et donc je vous annonce d'ores et déjà que le budget ne va pas se voter là au mois de décembre et donc au mois de mars. Je l'ai voulu ainsi et donc c'est une déclaration de politique générale dont j'assume la pleine responsabilité, qui a été construite non pas avec les membres du gouvernement.
Voilà, vous l'avez fait tout seul, ce qui est quand même original. D'habitude, on dit que c'est écrit à 11 mains et que tous les membres du gouvernement participent, ça n'a pas été le cas.
Oui, mais ce n'est pas dit que ce ne sera pas le cas. Parce que je vous annonce que si jamais on sort de la période avec un vote du budget qui est sincère, alors le gouvernement reviendra devant le Congrès faire une nouvelle déclaration, cette fois-ci de politique générale, qui sera construite avec l'ensemble des membres du 19e gouvernement.
Lors de sa déclaration de politique générale, Milakoulo Tukumuli a décrit la situation économique, sociale et financière de la Nouvelle-Calédonie. Il pense que tous les Calédoniens ont conscience que l'on est arrivé au bout d'un cycle et qu'il est indispensable de faire des réformes.
Je considère d'avoir posé les 5 piliers qui nous permettraient déjà de sortir la tête de l'eau et le calendrier et même la méthode et les partenaires du redressement. C'est ce qui a été fait lundi, je crois. D'ailleurs, je tiens à vous dire que dès le lendemain, j'ai rencontré le bureau de la CAFAT. Et mercredi, j'ai rencontré l'ensemble des partenaires sociaux. Il reste encore quelques-uns encore à rencontrer. Syndical et puis patronal, dès que je reviendrai de Paris, parce qu'il faudra les mettre autour de la table. Il faudra refaire une nouvelle concertation pour avancer sur les sujets que j'ai évoqués.
Et pour le président du gouvernement, l'objectif, c'est d'aller vite tout en pratiquant la concertation et la négociation. C'est ce qui sera fait pour la réforme du RUAM.
Sur les sujets que j'ai évoqués, notamment des comptes sociaux, en ce qui concerne le régime des retraites, du privé, c'est-à-dire de la CAFAT, et du régime du RUAM. Plusieurs travaux depuis plusieurs années. On connaît le problème ou les problèmes. On connaît même les diverses solutions. Maintenant, il faut décider. Mais pour décider, il faut une nouvelle et dernière concertation. D'abord, des partenaires sociaux, et c'est ce que je souhaite faire dès mon retour de Paris, avant de proposer un nouvel équilibre aux élus du Congrès, parce qu'il appartiendra au final aux élus du Congrès de décider de la tête des réformes.
La réforme du RUAM devra être adoptée avant le 31 décembre, confirme Milakoulo Tukumuli, mais il affirme que les propositions sont déjà sur la table. Il faut maintenant trancher après une nouvelle concertation. La mission transpartisane est à Paris pour obtenir l'aide de l'État afin de faire face à la situation financière. Pour le président du gouvernement, il y a en fait 3 objectifs. Il rappelle que la 3e tranche du PGE a été versée par l'État, mais qu'il reste encore la 4e, qui est d'un montant d'à peu près 20 milliards. C'est le premier point qui sera discuté à Paris.
On a besoin de ces 20 milliards si on veut pouvoir aller jusqu'à la fin de l'année, même s'il manquera encore un petit bout. Donc ça, c'est la première discussion qu'on va aller à Paris, parce que la troisième tranche a été versée sans condition, pas une condition ni de convention particulière avec des conditions. Par contre, pour la quatrième tranche, on va d'abord discuter avec le Premier ministre sur la décision ou sur les conditions éventuelles de la quatrième tranche. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, même si on avait les 175 millions d'euros, il va quand même nous manquer un petit bout pour finir 2026, et un bout quand même pour commencer 27, parce que sur les retraites, on a un sujet, les cotisations n'étant pas appelées au début d'année, on va avoir un trou d'air pour verser les pensions de retraite des 40 000 retraités calédoniens. Ça, c'est le deuxième sujet qui va être évoqué avec le Premier ministre. Et puis enfin, il y a le troisième et dernier sujet qui est fondamental, c'est justement qu'est-ce qu'on fait pour l'année 2027, en sachant que le ticket moyen, avec ce que je viens de dire pour 2026, il nous faut entre 50 et 60 milliards pour équilibrer le budget de l'ensemble des collectivités de notre pays, et puis combler les déficits des régimes sociaux, RUAM, retraite. Donc voilà l'enveloppe qu'il nous faudrait, et c'est de ces trois éléments qu'il faudra discuter.
Et la mission transpartisane parlera aussi du désendettement. Au retour de Paris, le gouvernement travaillera à la préparation du budget 2027 qui dépendra en grande partie du soutien financier obtenu de l'État. Milakoulou Toukoumouli confirme que s'il ne peut pas présenter un budget sincère, il en tirera toutes les conséquences en démissionnant.
Ça peut paraître surprenant, mais moi j'ai pas accepté d'être président, j'ai accepté une grande responsabilité, une lourde responsabilité, c'est d'essayer de sortir notre pays et de remettre sur le chemin de la confiance et de la prospérité. Moi, je considère qu'il faut 6 mois pour y arriver et j'ai donné la méthode, les partenaires du redressement et même les urgences et les réformes qu'il fallait faire. Nous, on ne fait pas des réformes pour avoir de l'argent de l'État, on fait des réformes pour qu'un jour, on n'ait plus besoin de l'argent de l'État, parce que je crois collectivement, on en a marre d'aller faire les mendiants à Paris. Je trouve que ce n'est pas sain. On a une responsabilité, on est des élus politiques et notre responsabilité, c'est de faire fonctionner et de faire tourner notre territoire. Et donc, si au bout des 6 mois, on n'a pas de budget sincère parce qu'on n'aura pas une aide de la part de l'État, c'est parce qu'on n'aura pas été capable de voter les réformes ou d'aller dans le sens des urgences que j'ai évoquées. Donc, je considérais que j'ai échoué dans ma mission. Donc, si j'ai échoué dans ma mission, ça veut dire que je laisse la place à celui ou celle qui viendra après moi.
Le président du gouvernement a aussi été interrogé sur le refus du FLNKS de participer à la mission transpartisane, une attitude qui l'étonne.
Je suis un peu étonné, oui, c'est vrai. Je suis un peu étonné parce qu'on en a discuté dans le gouvernement collégial et l'UCE voulait s'y rendre pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Puis bon, il y a l'Union calédonienne et puis après, c'est une décision du FLNKS. Moi, dans mon esprit, le FLNKS, c'est un mouvement de libération qui discute de la libération, justement, du peuple kanak. Et puis, il y a les institutions, il y a ce qui est institutionnel. Et les institutions, c'est les groupes au Congrès, c'est les membres du gouvernement, qui, moi, je comprends, moi, ont émis, après la commission plénière, où on a discuté des difficultés financières de notre pays, qu'ils étaient plutôt favorables à y aller. Maintenant, moi, je ne vais pas faire de commentaires particuliers, juste dire que c'est dommage, parce que la délégation est transpartisane. Si l'ensemble des mouvements politiques représentés et représentatifs de notre pays s'y trouvent. Je note quand même que le député Tchibaou, qui est président de l'Union calédonienne, fera lui bien partie de la délégation à Paris la semaine prochaine.
Une interview du président du gouvernement qui sera rediffusée ce soir dans son intégralité juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en podcast, audio et vidéo sur notre site internet www.rrb.nc.
Dans l'actualité également, Richard Poirat-Iriwa qui est le nouveau président du Sénat coutumier. Il a été désigné hier après 2 jours de travail lors du 26e congrès du pays kanak. 2 jours de travail lors desquels les sénateurs coutumiers ont travaillé en atelier puis en séance plénière, avant d'adopter une motion générale qui compte une 15aine de points, parmi lesquels moderniser, renforcer, mieux coordonner les institutions coutumières et les faire évoluer, faire de la prévention, de la cohésion sociale et de la résolution des conflits une priorité, ou encore faire de la jeunesse une priorité pour la mandature 2026-2027 qui vient de s'ouvrir. Cette motion générale, le 26e congrès du pays kanak affirme sa volonté de faire de la nouvelle mandature une mandature de responsabilité, de cohésion, d'action et de transmission. Écoutez le nouveau président du Sénat coutumier.
C'est un travail d'équipe. La feuille de route, c'est le cadre de travail, c'est ce que nos prédécesseurs ont fait. Aujourd'hui, on dit qu'il faut amener les choses là où on doit amener. C'est vrai que dernièrement, avec le changement d'élu politique, donc on est déjà en phase de préparer des réunions du travail, on attend le président du gouvernement qui revienne. et on pourra engager les travaux de continuité avec les dossiers qui sont en cours avec le gouvernement et le Congrès. Hier avant-hier, on vivait avec deux visions. L'objectif, c'est maintenant de rapprocher ces deux visions pour construire ensemble le pays de demain. Si nous ne ramenons pas les deux visions ensemble, ça va être difficile, mais je rappelle toujours le mot de M. Thibault, c'est le pari de l'intelligence. Elle n'est pas encore gagnée, mais on l'amène tout de suite.
Et rappelons que la coutume qui a clôturé ce 26e congrès du Pays Kanak s'est déroulée en présence du haut-commissaire Jacques Billon, du général Gabriel Soubrier, commandant supérieur des FANC, et les consuls de Nouvelle-Zélande, d'Australie et du Vanuatu. Le mois du patrimoine en province sud, l'opération se poursuit jusqu'au 20 septembre prochain. Parmi les événements du jour, le centre culturel Chibaou qui ouvre ses portes gratuitement au grand public. Les visiteurs peuvent découvrir les expositions et les collections du site de Nouméa. La plupart étaient ravis de cette opportunité de se plonger dans l'histoire calédonienne.
On découvre tous les petits expos qui sont autour et c'est génial, quoi. Il y a des photos, il y a des expos là-bas artisanales qui font rêver, quoi. Non, c'est génial. C'est un petit moment très sympa dans un cadre exceptionnel, quoi.
Ouais, on se promène un peu. Ça fait longtemps que je suis pas venu aussi. Ça fait plaisir. C'est des belles expositions et on se promène, on découvre des petites histoires avec les artistes aussi. Ça fait vraiment plaisir. C'est très intéressant.
On découvre la Nouvelle-Calédonie. On vient de la métropole et donc on est là pour découvrir. Donc c'est l'endroit idéal.
C'est un plaisir de revenir à chaque fois au centre culturel Chibaou. Donc dès qu'on peut, on vient. Et puis là, comme ça, dans le cadre des Journées du Patrimoine, c'est parfait, en plus avec le marché, la bonne humeur, le sourire, trop bien.
C'est impressionnant. Déjà, l'installation, je la trouve impressionnante. C'est magnifique.
À chaque fois, j'apprends des nouvelles choses. À chaque fois que je reviens ici, moi, j'aime bien.
C'est pas mal. On l'avait déjà vu, hein. On connaît déjà un petit peu l'histoire. C'est bien.
Chibaou, je le connais par cœur. En passant, ouais, je vais voir les expos. Ouais. Mais c'est surtout pour le marché que je suis venue. Hein.
Mais c'est magnifique ce que le centre a fait. Très, très belle chose.
Et les visiteurs qui pouvaient également, vous l'aurez compris, profiter ce matin du marché des femmes rurales, le centre culturel Chibaou qui vous ouvre ses portes au grand public jusqu'à 16h. La 32e édition du mois du patrimoine en province sud se poursuit jusqu'au 20 septembre. Et le programme est à retrouver sur le site internet de la province sud. Et midi et 14 minutes, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Équipe Alpha, vous êtes où ?
On est au Village Automobile.
Vous avez trouvé quoi ?
Les soldes, chef ! Les soldes du Village Automobile, avec des prix incroyables ! 11 grandes marques sur un seul site. Des SUV, des 4x4, des pick-up, des citadines, neufs ou occasion. Et jusqu'à 50% sur les pièces d'origine constructeur.
Tenez la position, j'arrive avant que tout soit vendu.
Du 29 août au 5 septembre seulement, rendez-vous aux soldes du Village Automobile PK4 à Nouméa ou chez MC Motors Saguenay.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Journal des sourds et des malentendants. Journal des sourds.
Vous entendez mais vous ne comprenez pas. Vous faites répéter souvent. Vous montez le son de la radio. Vous êtes gêné en milieu bruyant. Faites évaluer votre audition. Maud Estrade, audioprothésiste diplômé d'État, vous accueille au centre de l'audition. Le centre de l'audition vous prête gratuitement des aides auditives afin de choisir la technologie la mieux adaptée à vos besoins. Centre de l'audition, 19 quai Jules Ferry, un téléphone 27 30 50.
Après le bac, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles études choisir ? Où se former ? Et quelles sont les aides qui existent pour réussir ? Lycéens, parents, venez trouver vos réponses lors de la réunion publique organisée par l'Université de la Nouvelle-Calédonie et le CIO. Découvrez les parcours d'études accessibles en Nouvelle-Calédonie, les dispositifs d'accompagnement et posez toutes vos questions sur l'orientation après le baccalauréat. Rendez-vous jeudi 3 septembre à 17h30 à l'amphi 400 du campus de Nouville et en duplex depuis le campus de Baco. Préparez votre avenir dès maintenant. Plus d'infos sur umc.nc.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'info week-end avec l'actu nationale et internationale. On retrouve Lionel Sabot.
Et les candidats à l'élection présidentielle et leur soutien qui battent la campagne un peu moins d'un an du scrutin. La plupart des leaders politiques profitent de ce week-end pour faire leur rentrée. Ainsi, à la foire de Châlons en Champagne, au lendemain d'une visite de Bruno Retailleau, c'est Jordan Bardella qui faisait la sienne, un bain de foule, après un été lors duquel il est resté extrêmement discret. Le président du Rassemblement national qui en a profité pour copie-court à toute idée de frustration après la candidature de Marine Le Pen.
Ce qui compte, ce ne sont pas les ambitions personnelles, ce qui pourrait être
humeurs contrariées supposées n'ont absolument aucune importance. Ce qui compte, c'est le pays, c'est la France. Et aujourd'hui, il appartient à Marine Le Pen de porter le redressement de la France sur ses épaules. Je l'aiderai à gagner et à tous les Français, je dirais que je serai là, quoi qu'il arrive.
Et Jordan Bardella qui, par ailleurs, accuse la gauche de vouloir remettre en cause la paix civile en cas de victoire de Marine Le Pen. Pour le président du RN, les appels à la désobéissance lancés à gauche sont, et je cite, un aveu de faiblesse qui remet en cause les grands principes de l'état de droit et du fonctionnement électoral. Fin de citation. La gauche, précisément, a été réunie à Blois, dans le Loir-et-Cher, lors de son discours de clôture du campus d'été du Parti Socialiste. Olivier Faure a fait un pas de plus vers la primaire à gauche, notamment lorsque le premier secrétaire du parti a prédit l'effondrement du bloc central.
Emmanuel Macron a raté son rendez-vous avec ce pays, avec la grandeur de son histoire, la soif de justice des Français. C'est terminé. Ces anciens premiers ministres pourront se couvrir de cendres. C'est terminé. Le bloc central va s'effondrer. C'est terminé. La seule question est désormais de savoir qui sera chargé de reconstruire, tout réparer, tout réorganiser. Et je veux dire à ceux qui nous écoutent et nous attendent, nous sommes prêts.
Olivier Faure devrait se déclarer candidat à la primaire social-démocrate avant le 15 septembre. Il a rappelé dans son discours que François Hollande avait commencé à 3% dans les sondages avant de devenir président de la République. Un parallèle sans doute avec sa propre situation, lui qui peine à dépasser les 5% dans les enquêtes d'opinion. L'actualité judiciaire à présent avec l'ouverture en début de semaine prochaine du procès d'un animateur du périscolaire parisien. L'homme exerçait dans une école du 15e arrondissement de la capitale. Invité d'Europe 1 tôt ce matin, la conseillère de Paris Inès de Raguinel est revenue sur cette affaire tentaculaire et sur les 3 plaintes déposées par les familles de victimes contre l'ancienne maire de Paris Anne Hidalgo et son adjoint chargé des familles Patrick Bloch. Pour Inès de Raguinel, leur inertie choque et interroge.
Les politiques étaient au courant. À partir de 2015, la ville de Paris a mis en place un comité de suivi. C'est l'inspection générale qui me l'a dit droit dans les yeux en audition. Un comité de suivi où tous les élus étaient représentés par des membres de leur cabinet. Tous les signalements leur ont été remontés de façon mensuelle. Donc j'ai cette preuve-là, c'est très très éclairant et c'est la raison pour laquelle on va continuer avec acharnement à mener toutes les auditions jusqu'à la fin octobre. On rend notre rapport en décembre et dans les prochains jours, on va pouvoir auditionner Emmanuel Grégoire. Alors j'ai invité Anne Hidalgo, mais alors ça c'est ma deuxième petite révélation. Anne Hidalgo a refusé pour l'instant. Elle n'est pas disponible tout le mois de septembre et ni tout début octobre. Ça veut dire quand même quelque chose.
Bien sûr.
Non seulement elle ment, c'est un mensonge quand elle dit qu'elle n'avait pas connaissance, on le sait aujourd'hui. Et deuxièmement, elle continue à ne pas respecter ses familles, à avoir une absence de compassion totale. Enfin, c'est épouvantable sa manière de se comporter.
La conseillère de Paris, Inès de Raguinel, invitée d'Europe 1 Week-end ce matin. L'actualité à l'étranger, près de 8 mois après la capture de Nicolas Maduro dans un raid américain. Washington a conclu avec le Venezuela un accord pétrolier qualifié d'historique, contrat de plusieurs centaines de milliards de dollars. Donald Trump entend prendre le contrôle d'une vaste part du pétrole encore inexploité du pays, soit 65 milliards de barils issus de ses réserves. Wilfried de Villers pour Europe 1.
De quoi doubler les réserves pétrolières des États-Unis, promet le président américain. Avec cet accord, ils obtiennent le contrôle d'une société chargée d'extraire le pétrole de 17 champs stratégiques. Pour Donald Trump, il s'agit de la solution pour faire substantiellement baisser, ce sont ses mots, les prix de l'essence aux États-Unis, sans que cela ne coûte rien aux contribuables américains. Presque une promesse de campagne alors que l'annonce de cet accord intervient à 2 mois des élections de mi-mandat. Reste que le financement et surtout la faisabilité d'un tel projet posent question si le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, affirme qu'il y aura bien 100 milliards de dollars d'investissements privés au Venezuela. Certains des champs pétroliers concernés n'ont aucune infrastructure viable. Pour d'autres, les installations laissées à l'abandon sont nettement dégradées. Leur remise en état pourrait prendre plusieurs mois, voire des années, et coûterait des milliards de dollars. L'actuelle présidente vénézuélienne, Delcy Rodriguez, vante bien les bénéfices économiques d'un tel accord, mais sa légitimité est contestée par une partie de l'opposition.
Wilfried de Villers du service international d'Europe 1. Et puis en bref, le bilan de la crue dévastatrice de mercredi ne cesse de s'alourdir au Népal. 675 morts selon le dernier décompte. 2030, la catastrophe a frappé une région frontalière entre le Népal et le Tibet. Près de 3000 personnes sont toujours portées disparues, dont plusieurs centaines de touristes étrangers, parmi lesquels 4 Français. Les secours poursuivent leurs recherches dans l'Himalaya. Dans un peu plus de 3 semaines maintenant, le pape Léon XIV sera à Paris. Un déplacement du souverain pontife qui suscite évidemment un engouement historique auprès des fidèles. 400 000 personnes sont déjà inscrites pour la grand-messe place de la Concorde. Et ils seront des milliers de catholiques à faire le déplacement depuis le nord de la France. Reportage Maximilien Carlier pour Europe 1.
Génération Léon, peut-on lire sur ce foulard blanc et bleu, rempli de croix, de colombes et de cœurs. C'est cet objet que vont porter les jeunes catholiques lillois lors de la visite de Léon XIV à Paris dans un peu moins d'un mois. Hugo, pèlerin de 35 ans.
Ça va être un moment fort de rencontrer le pape, de se dire qu'on est tous ensemble autour de lui. Jean-Paul II, au final, j'étais trop jeune pour les JMJ qu'il a organisés. Le pape François, ça a été assez court au final. Et donc là, je pense qu'en effet, c'est le pape de nos générations, vraiment.
Ça va être grandiose d'être au Stade de France pour la veillée du pape, ajoute-t-il.
Oui, bonjour, c'est le service des pèlerinages.
Demande d'inscription en hausse, selon Frédéric Gueff, responsable des pèlerinages au diocèse de Lille.
Là, on va passer notre temps à répondre au téléphone et aux mails. Il y a un engouement qui commence. Il faut essayer de satisfaire les personnes qui veulent y aller. Pour le voyage du pape, on a entre 30 et 40 cars. Et également, j'ai un TGV spécial qui part de Dunkerque, donc pour aller spécialement pour aller voir le pape.
Entre 4 et 5 000 pèlerins du Nord et du Pas-de-Calais devrait faire le déplacement à Paris les 25 et 26 septembre prochains. À Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Il est midi et 22 minutes, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive.
Tu fais quoi le 26 septembre ?
Pas comme tout le monde, je suis inscrite à la Shell Pacific Méga Rando, le plus gros événement VTT du territoire.
Ah oui, mince, j'avais oublié !
En plus, pas d'excuses, chacun trouve un parcours à son niveau, entre amis, en famille, en rando ou en chrono, c'est ça la Shell Pacific Méga Rando.
Et pour les enfants ?
T'inquiète, c'est prévu. Toutes les informations et les inscriptions sont sur www.megarando.nc, alors on fonce !
Golden Tribute présente Friday Night Fever, la grande nuit du disco en live, vendredi 4 septembre au On The Beach. Préparez-vous à vivre 3 heures de concert exceptionnel avec 13 musiciens sur scène. Ouverture des portes 18h, début du concert 19h30. Dress code pour ceux qui le souhaitent, sortez vos plus belles tenues disco. Des mineurs à partir de 12 ans sont autorisés sous la responsabilité des parents. Les tarifs, pré-vente 2600 francs, tarifs sur place 3000 francs sous réserve de disponibilité. Les points de vente, Faubourg Blanchot, Compu System, route du Port des Pointes, Ducos, Fix & Go, Le Centre, Ansbata, Photodiscount. Paiement par chèque ou en espèces uniquement. Et bien sûr, www.ticket.nc. Golden Tribute, Friday Night Fever ou On The Beach.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et au cœur de l'actualité sportive, on retrouve Lionel Sabot.
Et on va commencer avec du cyclisme et ce coup de théâtre sur le Tour d'Espagne. L'abandon de Tadej Pogacar après une chute. C'était cette nuit, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée de la 8e étape de cette Vuelta. Tadej Pogacar a été victime d'une violente chute au cœur du peloton. Le Slovène de 27 ans a dû abandonner ce Tour d'Espagne dont il était pourtant le leader incontestable avec près de 4 minutes d'avance sur ses principaux rivaux au classement général. Le Slovène souffre d'une commotion cérébrale, d'une fracture de la clavicule gauche, d'une fracture cervicale de la 7e vertèbre. Son équipe précise qu'il ne souffre d'aucune autre blessure grave, ni de séquelles neurologiques. Il devra être opéré de la clavicule, mais l'intervention est reportée par précaution à cause de la commotion cérébrale. Une fracture de la clavicule qui éloigne généralement un coureur professionnel des routes 6 semaines environ. Tadej Pogacar pourrait ne pas être en mesure donc de défendre son maillot arc-en-ciel aux Mondiaux de Montréal fin septembre. C'est le premier abandon du cannibale slovène sur un grand tour. Réaction de Joxéane Fernandez, le directeur sportif de l'équipe Emirates.
Ah bien sûr, c'est le côté sombre du vélo. C'est terrible. Tadej est un coureur de renom. Il était en tête de la Vuelta avec plus de 3 minutes. C'est similaire à ce qui s'est passé avec Jonas sur le Tour de France. Maintenant, il faut qu'on soit là pour lui. C'était un moment assez calme à ce moment-là. Une grande route, il n'y avait pas de problème visible. Il n'y a personne qui est responsable, finalement.
Et le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Après l'abandon de Pogačar, c'est l'Espagnol Enric Mas qui est en tête du classement général avec une minute seulement d'avance sur le Slovène Primož Roglič. Rappelons que c'est le Français Brian Coquard qui a remporté cette huitième étape du Tour d'Espagne au sprint devant le Danois Mats Pedersen et le Belge Jordi Meus. Le football avec la suite de la deuxième journée de Ligue 1 et la défaite de Lens sur le terrain de Strasbourg. Les Lensois se sont inclinés 2-1 à la Méno, malgré l'ouverture du score de Florian Thauvin sur pénalty en première période. Les Strasbourgeois ont égalisé à la 48e minute de jeu, puis sont passés devant dans une dernière réalisation à la 85e. Quatre autres rencontres étaient au programme ce matin. Lyon a été accroché par Le Havre au Groupama Stadium, 1-1. Match nul également entre Brest et Toulouse, 2-2. À Lorient, victoire du promu 3-1 avec deux réalisations dans les 9 premières minutes du match. Enfin, large succès d'Angers à Auxerre, 3-1. Au classement, 3 s'invite provisoirement sur le podium. Quant à Auxerre, eh bien, le club reste lanterne rouge sans avoir pris le moindre point depuis le début du championnat. Sur les terrains de rugby également, les Springboks qui ont pris leur revanche sur les Blacks lors de la tournée de la Nouvelle-Zélande en Afrique du Sud. Les doubles champions du monde en titre se sont imposés la nuit dernière, 33-26 après leur défaite le week-end dernier à Johannesburg, 33-16. Les deux formations qui se retrouveront pour un troisième test match la semaine prochaine. Le sport mécanique à présent, MotoGP, le Grand Prix d'Aragon se dispute ce week-end. L'Espagnol Marc Marquez a remporté la course sprint devant son frère Alex Marquez et l'Italien Marco Bezzecchi qui avait pourtant signé la pole position sur le tracé espagnol. Le Français Joan Zarco, de retour de blessure, a signé une belle 9e place. Il partira toutefois pénalisé avec un double long lap à purger. L'autre tricolore, Fabio Quartararo, a été contraint à l'abandon sur problème mécanique. La course principale est à suivre ce soir, 23h, heure de Nouméa. Et puis en rallye, le rallye du Paraguay, le Finlandais Sami Pajari est toujours en tête avec une 20aine de secondes d'avance sur le Néo-Zélandais Hayden Paddon. Le Gallois Elfyn Evans est 3e, juste devant le Français Adrien Fourmeau, 4e. Une épreuve marquée par des crevaisons à répétition et par l'abandon dès la 3e spéciale de Sébastien Ogier, le nonuple champion du monde. Les dernières spéciales se disputent aujourd'hui. Venons-en au sport en Calédonie avec du BMX, avec l'avant-dernière manche de la Coupe territoriale qui se déroulait ce matin sur le site de Tina Michael Juneski.
Oui, des épreuves pour les riders de toutes les catégories. Les jeunes qui se sont lancés dans cette compétition de BMX Race cette année sont fidèles au rendez-vous, à l'image de Rémi Hurlerock du club VTT Passion, vainqueur aujourd'hui chez les moins de 17 ans.
C'était très bien, juste au début c'était un peu mouillé, donc c'était assez perturbant, mais après ça a séché et c'était bon. Il reste une manche et je suis plutôt bien classé, donc espérons le chercher un podium. Ça nous donne une idée de quel niveau on a et pourquoi pas Océania, voire plus grand, on verra après.
Et depuis l'ouverture de la piste de BMX Race et des formations proposées, la pratique a su trouver son public, ce dont se réjouit Brian Piracci, le coach de la piste de Tina.
Une belle troisième manche avec une quarantaine de pilotes inscrits aujourd'hui. Et voilà, c'est toujours un plaisir de faire découvrir cette discipline. Voilà, ça fait plaisir d'avoir ces moments de partage et de faire découvrir ce sport.
Chez les moins de 13 ans, c'est Maëlle Chanson qui s'est imposée. La dernière manche se déroulera à la fin du mois d'octobre, toujours sur le site de Tina, avec de nombreuses animations qui seront proposées pour une grande fête du BMX sur le site dédié à la discipline.
Un trail ce dimanche, le rendez-vous a été donné à Thomas Vallée.
Chez les messieurs, sur le Grand Vroom de 15 km, la victoire est revenue à Grégory Guépy. Il a devancé Thomas Buisson et Laurent Piazza. Au classement féminin, Mélanie Bertrand a terminé en tête devant Laurie Bernelin et Véronique Esposito. Sur le mini vroom de 8,5 km, François Aymar l'a emporté, tout comme Dorian Grulska. Chez les dames, le rendez-vous a été mis en place par Challenge Organisation. Près de 250 participants étaient en lice sur l'ensemble des parcours proposés.
Je vous rappelle qu'en cricket, on joue ce week-end les finales territoriales seniors, hommes et dames. Elles se déroulent à Poindimier. Chez les messieurs, Berouma s'affronte l'Ossie. Chez les dames, Wedrumel est à est opposé à la JS Ouvéa. En football, rappelons que l'on connaît l'affiche de la Coupe de Calédonie 2026. L'AS Cougnier sera opposée à Horizon Sport. L'équipe de Cougnier s'est imposée face à l'AS Essor d'Imbéa, 2-0. Horizon Sport l'a emporté sur le FC Bellep-Mondor, 4-2. La finale qui se disputera le 12 septembre, ce sera sur la pelouse de Numadele. Et puis du foot encore, hors territoire cette fois-ci, on signalera que la sélection calédonienne des moins de 20 ans a subi une lourde défaite lors d'un match de préparation au Mondial en Pologne face à l'Angleterre. Les footballeuses calédoniennes ont perdu sur le score de 11-0. Midi et 30 minutes, la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Ce journal sera disponible d'ici quelques minutes en réécoute sur notre site internet, le www.rrb.nc. Je vous donne rendez-vous à 13h pour d'autres informations. Bel après-midi, bonne fin de week-end sur RRB. À tout à l'heure.